Eh bien, merci à toute l'équipe d'Accent d'Europe. Allez, on parle des bébés ce soir dans le débat du jour.
Le débat du jour. Romain Ozoui.
Des bébés qui sont de moins en moins nombreux sur la planète. C'est une tendance qui n'est pas nouvelle. Dans les deux tiers du monde, le renouvellement des générations n'est plus assuré. Face à cela, les dirigeants rivalisent de mesures toujours plus innovantes pour tenter de relancer la natalité. Et la dernière en date nous vient de Hongrie, où les mères de deux enfants vont être exemptés d'impôts à vie. La Chine multiplie les décisions face au vieillissement de la population et la France n'est pas en reste. Souvenez-vous de l'appel du président Emmanuel Macron à un, je cite, « réarmement démographique ». Notre question ce soir, faut-il doper la natalité? En d'autres mots, jusqu'où l'incitation doit-elle aller sans porter atteinte à la liberté de ce choix qui est personnel, qui est intime? Qu'est-ce que ce clivage dit de nos sociétés? Sommes-nous face à un tournant? Soyez les bienvenus dans le débat du jour. Et pour répondre à ces questions, nos trois invités à mes côtés en studio, Hervé Lebras, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historien et démographe, directeur d'études à l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales. Face à vous, Bettina Zourli, bonsoir.
Bonsoir.
Spécialiste en études de genre, autrice du livre « Le temps du choix, être ou ne pas être mère ». Et Yvon Siriex qui est à vos côtés, bonsoir.
Bonsoir.
Chargé de mission au pôle économie et démographie à l'Union nationale des associations familiales. Merci beaucoup à vous trois d'avoir accepté l'invitation du débat du jour sur RFI. Hervé Lebras, dans les deux tiers de la planète, le taux de fécondité qui est désormais sous les 2,1 enfants par femme, donc ce que je disais, dans ces régions-là, le renouvellement des générations n'est pas assuré. D'abord, comment on peut expliquer cette situation ?
C'est difficile d'avoir une situation sur l'ensemble de la planète, mais je pense qu'on peut comprendre c'est ce qui se passe dans les pays où ça a le plus baissé, donc, et où c'est le plus bas. Vous savez qu'en Corée, on doit être maintenant un peu au-dessous de 0,8 enfants par femme. C'était inimaginable. En Chine, on est à 1, pas le chiffre le plus récent, mais il est de 1,15. Au Japon, on est autour de 1,20. Et si on fait le parallèle en Europe, c'est dans les pays du Sud où c'est le plus bas, c'est-à-dire Grèce, Espagne, Italie. Et il y a un point commun, c'est que c'est des pays où la situation des femmes, où l'inégalité hommes-femmes est importante. Ouais. Or, ce qui s'est produit jusqu'ici, au fond, les femmes acceptaient un peu mieux leur situation parce qu'elles étaient moins elles étaient moins diplômées que les hommes. Ouais. C'était le cas en France dans les années 80-90. Donc, elles conciliaient vie familiale et vie professionnelle. Ça veut dire qu'elles faisaient la double journée, parce que ce n'est pas à l'homme qu'on le demandait. Et puis là, maintenant, si vous prenez pas simplement le cas de la France, c'est vrai aussi en Corée et au Japon, les femmes sont maintenant plus diplômées que les hommes. En France, si vous prenez un bac plus 3, Vous avez à peu près 45% d'hommes, 55% de femmes. Donc les femmes ne voient plus pourquoi elles feraient la double journée. Ouais. Et à ce moment, parce qu'elles ont aussi leur carrière comme les hommes. Il n'y a pas de raison désormais qu'on peut dire qu'elles se sacrifient. Et du coup, eh bien, ce n'est pas la seule raison, mais je pense que c'est l'une des raisons les plus importantes. Il y a d'autres raisons qu'on verra sans doute, mais ça veut dire que la seule recette correcte, c'est d'arriver à plus d'égalité homme-femme. Ouais. Si on veut vraiment que, à nouveau, les familles comprennent plus de 0,8 enfants comme en Corée. Et ceci dit, ça sera dur parce qu'on en parlera peut-être. Il y a ce que les Américains appellent « fertility trap », c'est-à-dire que quand on tombe dans des très basses fécondités, c'est très rare qu'on puisse arriver à remonter.
Donc en fait, le dilemme des femmes dans les pays que vous évoquiez, c'est soit la double journée qui n'est plus vraiment adaptée, soit, et c'est pourquoi elles ont peut-être moins envie d'avoir des enfants, en fait, sacrifier une vie professionnelle.
Exactement, c'est pour ça que des mesures comme celle de la Hongrie. Alors la Hongrie prend une mesure qui est un peu spectaculaire, mais elle ne fait que suivre ce que fait la Russie depuis maintenant une dizaine d'années, qui prend des mesures extrêmement fortes. Et en Russie, la fécondité ne remonte pas plus. Elle est autour de 1,45 actuellement. Donc c'est parce que
Vous avez déjà répondu un peu à la question. Finalement, les mesures incitatives ne sont pas efficaces.
Oui, parce qu'elles ne vont pas au cœur du problème. Mais si vraiment on veut relancer la natalité, on peut le défendre après tout, à ce moment-là, il faut s'attaquer à cette question de l'égalité des sexes et des genres.
Yvon Siriex, vous qui êtes chargé de mission à l'Union nationale des associations familiales. Vous devez saluer, non, ces mesures comme la Hongrie propose, qui vise à relancer la natalité, donc exempter d'impôt à vie les mères de 2 ou 3 enfants. C'est une mesure choc.
Tout dépend de ce que souhaitent les Hongrois qui veulent avoir des enfants. C'est-à-dire que le chiffre qu'a cité Hervé Le Braz est tout à fait exact. Il y a une baisse globale dans les pays développés, dans les pays industrialisés, de la fécondité, enfin du nombre d'enfants par femme. Une des choses qui bouge pas, qui bouge très peu en tout cas, c'est ce que l'on appelle le désir d'enfant. C'est-à-dire, vous posez la question aux personnes, quel est le nombre d'enfants idéal, personnel, que vous auriez voulu avoir ou que vous souhaiteriez avoir. Et ce chiffre ne bouge pas, hein, il bouge très peu. C'est-à-dire, même dans les pays à très très basse fécondité, comme précisément donc, la Corée du Sud, 0,74 enfants, je crois, cette année, enfin, en 2024, 0,74 enfants par femme, vous posez la question, quel est votre nombre idéal d'enfants? Ils vont vous répondre entre 2,1 et 2,5 selon les questions, selon la formulation de la question.
Ouais, et après, il y a ce décalage alors, entre le désir d'enfant, mais ça, vous le pointez d'ailleurs. Les familles ont moins d'enfants alors qu'elles en désirent toujours.
Eh bien,
autant.
Il faut leur demander. La première chose, lorsque
des délégations coréennes viennent nous voir... Mais vous, à l'Union nationale des familiales, vous les connaissez, les familles?
Oui, on les connaît. On connaît celles de France, hein, parce qu'on s'occupe de celles qui sont en France. Et globalement, on leur pose la question. Et globalement, ceux qui nous répondent, vous avez à peu près 30% des gens qui terminent leur vie fertile, plus exactement 30% des parents qui disent qu'ils n'ont pas eu le nombre d'enfants qu'ils souhaitaient, par exemple. 34% plus exactement. Si vous prenez toute une génération, en fin de génération, vous avez à peu près 30% des gens qui n'ont pas eu le nombre d'enfants qu'ils souhaitaient.
Pourquoi ?
C'est un fait en soi.
C'est-à-dire, c'est fort.
Et le pourquoi, en général, ce sont il y a beaucoup de raisons matérielles. Ça tourne autour de l'argent, ça tourne autour éventuellement du logement. Ça tourne aussi dans le fait d'avoir trouvé ou pas la personne avec qui les faire, ce qui est aussi assez important.
Pardon, je vous coupe, mais quand ça tourne autour de l'argent, ça veut dire qu'encore une fois, cette mesure choc de la Hongrie d'exempter à vie les mères de 2 enfants, elle va dans le bon sens.
Je connais la France. Est-ce que le président Orban connaît les Hongrois et l'Hongroise? Est-ce qu'il leur a posé la question? Parce que, par exemple, si vous allez en Corée, vous avez une politique familiale qui, sur le papier, elle est pas mal du tout. Vous avez même des conditions de congé parental qui seraient pas mal du tout. Mais si l'on étudie bien les raisons et si on essaye aussi de modéliser ces raisons, il y a une publication très récente qui était très intéressante à ce sujet-là, on se rend compte qu'un des principaux freins ou blocages, c'est le coût des études. Donc, globalement, c'est pas pareil en France et c'est pas pareil en Corée. En France, c'est très clair, ils veulent, les personnes qui auraient voulu avoir un enfant de plus, nous disent, congé parental, plus d'allocations. Et des services d'accueil qui soient plus accessibles ou moins chers, et de meilleures conditions de travail. Voilà les 4 choses qui remontent.
Bettina Zourli, est-ce que vous direz que là, aujourd'hui, les sociétés, elles sont plus adaptées aux vies familiales, aux vies avec enfants ?
Oui, je pense qu'effectivement, c'est ça. Enfin, ce qui a été dit est tout à fait juste. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. C'est effectivement, on voit qu'il y a des évolutions déjà en termes de normes familiales, en termes d'envie aussi, qui se confrontent à des enjeux économiques, capitalistes même, en fait, je dirais, et qui sont effectivement pas du tout raccord avec le fait de faire famille, en fait. C'est-à-dire que Hervé Le Braz l'a rappelé au tout début, il y a effectivement les luttes féministes, progressistes, en tout cas, se heurtent au fait de... qu'on est toujours dans un système capitaliste et que du coup, on ne peut pas se défaire d'avoir une entrée d'argent suffisante pour payer des logements qui sont toujours plus chers. Et du coup, forcément, en fait, tout ça, ça fait partie des... Moi, en fait, si je devais résumer par rapport aux études qu'il y a, que ce soit les études de l'UNAF ou les études démographiques, il y a a priori 3 grands freins, on va dire, en France sur le fait de faire des enfants. C'est effectivement le manque d'accueil dans la petite enfance. C'est ça qui est beaucoup mis en avant. Et on est sur des coupes budgétaires depuis des années qui sont drastiques et qui ne s'améliorent pas du tout. On est aussi sur le manque de... C'est-à-dire les jeunes ménages qui ont envie justement de se mettre en ménage pour faire famille se heurtent à une crise du logement qui est sans précédent aussi, avec des loyers qui sont démentiels. Et effectivement, les luttes progressistes pour l'égalité entre les genres ne va pas... évolue quand même un petit peu, mais en réalité se heurte toujours à un désintérêt, je trouve, masculin, notamment de la prise de responsabilité du congé de paternité, par exemple.
Ça évolue.
Bah, ça évolue, mais pas assez vite, clairement. Ouais. Et en plus, alors, ça évolue, on peut dire que c'est tout à fait relatif, c'est-à-dire qu'on n'arrête pas de dire depuis... Il y a eu depuis les années 80-90 le mythe du nouveau père avec les papas poules, etc. En réalité, quand on regarde la structure d'un couple hétérosexuel et comment il s'organise au niveau du partage des tâches domestiques...
Ça ne change pas beaucoup.
Exactement, ouais, on se rend compte qu'en fait, c'est vraiment un mythe qui a été mis en avant dans les médias. Ouais. Mais en réalité, non, les hommes ne font toujours pas leur part dans les foyers hétérosexuels.
Hervé Le Braz.
Oui, non, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. Sur le désir d'enfant, je suis beaucoup plus réservé parce que c'est aussi si on vous demande combien vous voulez de pièces dans votre appartement, ou combien vous voulez de salaire, ou combien vous voulez de mètres carrés, vous direz plus que ce que vous avez. Mmh. La plupart du temps, c'est très rare que les gens disent moins. Si on vous demande en fin de carrière, est-ce que vous êtes content de la taille de logement que vous avez eu, ben on dira non, moi j'aurais bien aimé avoir un logement plus grand. Donc pour moi, c'est pas une question qui est bien posée. Il y a eu d'ailleurs beaucoup de travaux, notamment ceux du sociologue Alain Girard, qui ont critiqué, qui était plutôt un sociologue, je dirais même nataliste, mais qui ont critiqué cette notion à l'aide d'enquêtes. Donc, se fonder uniquement là-dessus pour décrire la question de la baisse de fécondité, ça me paraît pas du tout suffisant. En revanche, ce que vous avez dit, M. Sérec, c'est sur la question de... du coût de l'enfant. Et je pense là que, du moins c'est l'explication dans un grand nombre de pays en Asie, c'est le coût des études. Et aussi, plus que le coût des études, c'est l'idée, il faut que votre enfant réussisse. Vous savez, c'est le thème du petit empereur en Chine. Et c'est un thème qui a été, au fond, il y a un très grand prix Nobel d'économie, qui est Gary Becker, qui a fait un livre qui s'appelle... le titre exact, d'ailleurs, c'est pas Economics of the Family, mais c'est quelque chose comme ça, et où il montre qu'il y a une balance, qu'il y a un équilibre qui se fait entre quantité et qualité de l'enfant, et que plus la société a évolué, plus on a été vers... choisir la qualité de l'enfant contre la quantité d'enfants. Mmh. Et là, c'est quand même ce qu'on constate, y compris d'ailleurs socialement, c'est les classes les plus pauvres dans les pays développés qui ont le plus d'enfants, et c'est pas les plus riches qui en ont le moins, ils en ont un peu plus, mais c'est les classes moyennes qui ont le moins d'enfants.
Oui, parce que... Évidemment, on a beaucoup d'auditeurs africains qui nous écoutent, mais l'Afrique, elle est hors débat quand on pose la question de faut-il doper la natalité. Au contraire, la natalité progresse.
Ben, en Afrique, non, il reste une exception qui est le Sahel et l'Afrique équatoriale, où là, vous avez encore 6 enfants par femme. Le Niger, qui est le recordman, est à 6,7 enfants par femme l'année dernière. Donc, c'est très, très... On ne peut pas parler, si vous voulez, de cette question-là sur l'Afrique.
On va parler des sociétés occidentales, mais pas seulement, parce qu'il y a effectivement l'Asie aussi qui est beaucoup touchée.
Tout le sud de l'Amérique. Vous savez que le pays qui a la plus forte fécondité en Amérique, si on prend... tous les pays d'Amérique latine, du Mexique jusqu'au Chili, le pays qui a la plus forte fécondité dans les annuaires des Nations Unies, c'est la Guyane française.
Ah. D'ailleurs, la France, vous dites la Guyane française, ça me pense à la France qui... Et le reste, même s'il y a eu 660 000 bébés l'an dernier...
Il semble que Roumanie l'ait doublé récemment. Ouais.
Mais la France est quand même au-dessus de la moyenne. Mais d'ailleurs, ce besoin de relancer la natalité, qu'est-ce qui révèle? Est-ce qu'il y a vraiment péril en la demeure? Yvon Sérieix, chargé de mission, encore une fois, à l'Union nationale des associations familiales.
Juste pour rappeler sur la question du désir d'enfant. Globalement, nous, on considère que c'est une demande de la part des gens. C'est une demande et qu'elle est sérieuse. Je pense qu'elle est beaucoup plus profonde que ce que M. Le Braz dit. D'ailleurs, lorsqu'on pose la question « qu'est-ce qui vous permettrait de réaliser votre désir d'enfant ?», ils répondent. Mmh. Ils répondent et ils répondent sur les mesures que je vous ai décrites tout à l'heure. Donc, globalement... il s'agit déjà d'une aspiration. Donc nous, on représente cette aspiration et c'est normal donc qu'on la porte auprès des pouvoirs publics. Mais il se trouve que les pouvoirs publics, en France en tout cas en particulier, ont un intérêt particulier à ce qu'il y ait sur le long terme. Et le long terme, ça vient très très vite hein, parce que ça vient en 20 ans et en 20 ans, ben, on est encore vivant. Ouais. Ça vient très vite. C'est l'équilibre du système de protection sociale, en particulier l'assurance maladie. Parce que lorsque l'on est âgé et qu'on ne travaille plus, c'est là où on coûte le plus cher en termes de santé et qu'on a besoin d'avoir donc des actifs pour pouvoir continuer à financer l'assurance maladie. et pareillement donc sur le système de retraite. Mais ça, sur le système de retraite, tout le monde le sait. Et globalement, c'est un levier qu'on doit considérer comme un levier d'action parce qu'il y a possibilité, et ça c'est à la fois une conviction et en même temps on a trop de preuves que c'est une réalité, il y a possibilité d'aider les gens à réaliser leur désir d'enfant. Mmh. Encore une fois, le problème c'est certainement pas d'inciter les gens à avoir des enfants, surtout ceux qui n'en veulent pas. C'est pas le problème. Mmh. Globalement, il s'agit de permettre à ceux qui en veulent d'en avoir. C'est très différent. Mmh.
Ça, c'est intéressant, et c'est au cœur de notre débat. Faut-il doper la natalité, Bettina Zurli, faut-il encourager, faut-il faciliter le projet familial? Encore une fois, elle est où la limite?
Oui.
Parce que, encore une fois, on fait face à un choix, et je te disais au début de cette émission, qui est quand même très intime, qui est très personnel. Mmh. Est-ce que jusqu'à quel point les autorités ont leur nez à mettre dedans? Et encore une fois, l'enjeu économique, il est majeur. Mmh. Donc oui, la ligne, elle est ténue.
En fait, je pense qu'il y a plusieurs manières de traiter le souci, je mets des guillemets, même si on ne les voit pas à l'oral. C'est qu'en fait, déjà, de base, tous les médias, depuis plusieurs années, puisqu'effectivement la baisse de la natalité en Occident, elle est continue depuis plusieurs années, le fait de traiter ce sujet comme étant alarmant ou un problème, c'est déjà biaisé. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, déjà, on prend parti quand on fait ça. Il y a plein de moyens de régler, on va dire, le souci de renouvellement des générations.
C'est pas un problème ?
Le vieillissement
de la population, ça a des conséquences importantes.
Bah en fait,
je vais pas interroger le démographe Hervé Lebras, mais
ça a des conséquences importantes si on conserve notre système actuel et si on reste dans une dynamique de vouloir toujours construire plus, consommer plus. Encore une fois, moi, je suis plutôt favorable à une logique anticapitaliste et de décroissance, et pas forcément de décroissance démographique, pour le coup. Moi, je suis pas du tout antinataliste. Je suis plutôt pour soutenir les personnes qui désirent des enfants, donc par, comme je disais, l'accueil de la petite enfance, le soutien aux luttes féministes, de répartition des tâches domestiques, notamment, de congés parentaux, et aussi avoir ce discours-là de on peut faire peut-être moins d'enfants, mais mieux. Ouais. Et en fait, ça, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre système capitaliste, il est en bout de souffle. Le néolibéralisme, depuis les années 80, il est clairement en train de nous exploser en pleine figure. Enfin, je veux dire, tout le monde est aliéné par ce système. Et il est vraiment temps qu'on repense ça. Et donc, rester dans cette dynamique de dire, pour soutenir notre système qui, de toute façon, n'est plus viable, il faut faire plus d'enfants. Oui, mais en fait, on peut imaginer complètement d'autres manières de s'organiser d'un point de vue sociétal, tout en restant dans une logique de qui est quand même très socialiste, ce qu'on a en France, à savoir de répartition, etc. Ça, c'est... Oui. Et les économistes spécialisés sur le sujet montrent que c'est faisable, en fait.
On pourra tracer des perspectives à quoi ressembleraient nos sociétés avec une chute de la natalité qui serait pas enrayée. Mais je rebondis sur ce que disait Yvon Syriac sur le désir d'enfant. Vous avez travaillé sur le phénomène de « child free ».
Oui.
C'est un mot qui nous vient des États-Unis, qui désigne les personnes qui souhaitent vivre sans enfant par choix. Qu'est-ce qu'il représente aujourd'hui? On peut le quantifier, on peut l'évaluer? Est-ce que c'est un phénomène qui progresse?
C'est difficile à dire parce qu'en réalité, comme l'a rappelé M. Lebras sur d'autres questions, c'est que le déclaratif n'est pas forcément du tout quelque chose de concret sur lequel on peut se fier. Par contre, il y a effectivement un gros sondage qui avait été relayé en 2021, qui d'ailleurs avait été mal relayé par tous les médias, disant que 30% des femmes en âge de procréer et n'étant pas déjà mères en France ne veulent pas d'enfants.
Okay.
Donc c'est 13% des Françaises qui en 2021 disaient « je ne veux pas d'enfants », ce qui est plus que... donc en 2010, c'était les derniers sondages, on était à peu près 5 ou 6% des Français et Françaises. Donc effectivement, c'est plus. En réalité, ça reste du déclaratif.
Ouais.
Et si on se base aussi sur les courbes démographiques de la fin de fécondité, enfin la fin de vie fertile des femmes depuis les années 1850, on se rend compte qu'il y a toujours entre 10 et 15% des femmes qui n'ont pas d'enfants à la fin de leur vie fertile depuis 200 ans en France.
Ouais.
Donc il n'y a pas de...
Il n'y a pas d'évolution majeure.
Il n'y a pas de mode, c'est-à-dire c'est vraiment quelque chose que les réactionnaires adorent dire, qu'il y aurait une mode, un mouvement child free, un mouvement no kids, voire une propagande, ça c'est M. Poutine qui l'a dit en Russie, qu'il y aurait une propagande child free. C'est pas vrai. Ouais. C'est impossible à affirmer, en tout cas.
Vous qui avez écrit justement le temps du choix, être ou ne pas être mère, vous êtes à la rencontre des femmes qui ne souhaitent pas être mère.
Oui,
comment vivent-elles cela? Quel regard ont-elles de la part de la société? Est-ce qu'elles ressentent une pression à être mère? Est-ce que elles entendent vous faites un choix égoïste?
Oui, bien sûr. Ouais. En fait, moi, je tiens depuis 5 ans un compte Instagram qui s'appelle Je ne veux pas d'enfants, donc sur lequel je partage beaucoup de témoignages sur le sujet. Et tout récemment, j'avais aussi fait un appel à témoignages sur quand est-ce que vous vous êtes rendu compte que vous aviez le choix de ne pas être mère. Et en fait, j'ai reçu énormément de messages de femmes me disant « bah moi, c'est à partir de 20 ans, 22 ans, 25 ans, ouais. parfois plus tard, qu'elles se sont rendues compte qu'elles avaient le droit de faire ce choix-là. » C'est-à-dire qu'on est quand même encore aujourd'hui dans un pays donc pronataliste, enfin globalement, une société qui est, encourage enfin, ce modèle de se reproduire et que pour plein de gens, le fait de ne pas avoir d'enfants n'est même pas possible. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ne savent, ils et elles ne savent pas que c'est bah, que c'est, qu'elles, sont, oui, qu'elles ont le droit
c'est
le faire.
Pas,
quoi.
C'est pas quelque chose que Hervé Le Bresque est en train de changer. On parle de la génération
oui,
Z.
Oui, il y a quand même quelque chose, je trouve, qui est en train de changer.
Oui,
parce qu'il y a eu, en fait, ce qui s'est produit, c'est la question du baby-boom. C'est-à-dire qu'il y a eu une énorme, on peut le dire, propagande dans l'entre-deux-guerres qui était contre l'enfant unique et contre les couples sans enfants. Parce que c'était assez fréquent avant-guerre. Et... cette propagande est une des explications au baby-boom, puisqu'on voit qu'au moment 46-47, c'est les familles d'un enfant et les familles sans enfant, si on peut dire, qui deviennent moins nombreuses. Et c'est les familles de 2 et 3 enfants, c'est pas les familles nombreuses. Les familles de 4, 5, 6 enfants continuent de décroître, comme s'il n'y avait pas eu un grand changement. Et donc, il y a eu en France une histoire particulière, qui est liée à une histoire plus ancienne de basse fécondité par rapport au reste de l'Europe. Mais je crois que ce moment-là est terminé, et on le voit dans les courbes. Donc, on est en train de se diriger... justement, vous le disiez, il ne faut pas parler seulement de la France. Quand on fait un graphique et qu'on regarde comment la fécondité a baissé dans tous les pays de l'Union européenne depuis une vingtaine d'années, on voit qu'elle a baissé d'autant plus qu'elle était plus élevée. Et la corrélation, je pourrais donner des chiffres, est même forte. Et ça veut dire qu'au fond, il y a une sorte de... Quelquefois, je dis, c'est un domaine où l'Europe a réussi, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de famille européenne, de vision de la famille européenne qui est en train de se constituer et qui va autour de 1,45-1,5 enfants par femme. On voit bien le rétrécissement, quand on met toutes les courbes ensemble, le rétrécissement, on se dirige vers ce 1,45. Peut-être qu'on ira plus bas, mais il y a là-dedans quelque chose, un mouvement très fort.
Ouais. Faut-il doper la natalité? La question qu'on pose ce soir dans le débat du jour, on réagit notamment à cette mesure de la Hongrie selon laquelle les mères de 2 enfants vont être exemptées d'impôts à vie. Mes 3 invités sont Hervé Le Bresque, que l'on entendait, qui est historien et démographe, directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales, Bettina Zourli, spécialiste en études de genre et autrice du livre Le temps du choix, être ou ne pas être mère, et Yvon Seriex, chargé de mission au pôle économie et démographie à l'Union nationale des associations familiales. On a vu dans la première partie du débat que finalement ces mesures, parce que je cite la Hongrie, on peut parler du réarmement démographique cher à Emmanuel Macron, on peut parler de toutes les mesures que la Chine a annoncées pour enrayer le réarmement pour enrayer la démographie en berne. C'est pas efficace, vous me le disiez, Hervé Le Bresque. Et effectivement, on peut citer la Corée du Sud où les allocations sont très élevées, la natalité a peu bougé et on a dit que finalement les sociétés n'évoluaient pas comme il faudrait en termes d'égalité homme-femme pour permettre une relance de la natalité pertinente. Mais dès lors, Yvon Seriex, qu'est-ce que signifie, on va essayer de prendre un peu de hauteur, qu'est-ce que signifie finalement cette avalanche de mesures toujours plus incitatives? On a parlé de à quel point ça touche à l'intime. Est-ce que ça ne révèle pas aussi une difficulté de la part des autorités à accepter un changement sociétal ou peut-être que demain, les sociétés se feront avec moins d'enfants?
Écoutez, j'écoutais donc les autres interlocuteurs parler, je dirais, justement d'une réforme sociétale. Comme je dis, nous, on ne la voit pas dans les intentions.
Ouais.
Globalement, les intentions, elles restent les mêmes. Plus exactement, les idéaux. Les intentions, c'est autre chose. Mais les idéaux restent les mêmes. C'est-à-dire l'image d'être parent, c'est un idéal qui ne varie pas beaucoup. Et on ne peut pas mettre sur le dos d'un mouvement no kids, d'un supposé mouvement no kids, une baisse des naissances. Ça ne vient pas de là. On a trop d'explications par ailleurs qui ramènent cela à des difficultés en particulier matérielles, face à une situation qui est objectivement, économiquement très dégradée depuis 2008, en particulier dans tous les pays développés. Il y a eu aussi, juste après les crises financières de 2008, il y a eu un grand mouvement aussi dans toute l'Europe de coupes importantes dans les programmes pas forcément spécifiquement de politique familiale, mais aussi de politique familiale, mais de tout ce qui pouvait aider en termes d'infrastructures, tout ce qui peut créer un environnement favorable.
Et on n'a pas de l'accompagnement, mais pour vous, le mouvement No Kid, il est trop peu important pour que les autorités aient à le prendre en compte.
Je dirais que, comme le disait notre intervenante...
Comment le prendrait-elle en compte ? Forcer les gens à faire ? C'est la question que vous posiez au début.
Globalement, ça concerne trop peu de gens. Ça concerne trop peu de gens.
Mais est-ce qu'on a...
En fait, ce qui est marrant, c'est pris en compte uniquement par des éditorialistes ou auteurs conservateurs, voire réactionnaires aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a quelques petits livres qui sont sortis récemment, comme... Seuls les enfants changent le monde. On a Zilise Le Corps qui est clairement conservatrice, qui est obsédée par les child free, qui soi-disant serait, je cite quand même son livre, orienté par des pulsions de mort, etc. En fait, c'est vraiment un moyen de détourner le problème en disant que c'est la faute du féminisme, hein, parce qu'en gros, c'est ça qu'elles disent, alors qu'effectivement, comme vous l'avez rappelé à l'instant, ça n'a absolument aucun rapport. Les luttes féministes, et d'ailleurs, ça a été prouvé, c'est que plus un pays est progressiste et soutient à la fois l'accès à l'avortement, l'accès à l'égalité des genres, plus c'est émancipateur pour les femmes, et plus, en tout cas, ce n'est pas du tout corrélé à une baisse de la natalité. Donc ça n'a rien à voir.
Dès lors, la baisse de la natalité, elle est là. Donc le mouvement No Kids, il est effectivement très peu important, je vous entends, mais la baisse de la natalité, elle est là. Comment faire pour l'enrayer, Hervé Le Braz, sans justement recourir à ces mesures qui touchent, encore une fois, à quelque chose de trop intime?
Je crois qu'il faut d'abord reconnaître que les mesures financières, si on fait un historique des mesures financières, ça n'a pas d'effet, ou presque pas d'effet.
C'est
une première chose. C'est aussi pour les dirigeants hongrois, on pourrait peut-être leur indiquer, parce qu'il y a quand même une expérience très longue. Parce qu'il n'y a pas de comparaison entre ce qu'on désire dans le fait d'avoir un enfant et puis... des sommes d'argent qui d'ailleurs souvent, étant donné le coût de l'enfant, et j'ai rappelé que il y a la volonté des parents de plus en plus, s'ils ont un enfant, de faciliter au maximum son éducation, parce qu'en plus de ça, la compétition sociale est de plus en plus grande encore dans le monde d'aujourd'hui. On rappelle à quel point l'ascension sociale a été maintenant freinée en France, donc les parents veulent que leurs enfants réussissent.
Allez-y, je vous écoute. Yvon Seriex.
Tout cela renvoie, c'est-à-dire une grande mesure financière, isolée comme celle-ci, il y a peu de chances qu'elle réponde à la grande diversité des attentes des parents. C'est-à-dire, traditionnellement, une politique familiale peut avoir un effet assez conséquent sur les naissances. N'oublions pas qu'entre 1994 et 2010 et 2011, il y a eu une énorme augmentation de la fécondité en France. On est passé de 1,74 à 2,02. Et ça s'est fait grâce, selon nous, c'est notre interprétation, à un cumul de conditions très favorables.
L'explication est tout à fait différente démographiquement. Je pourrais entrer dans plus de détails, mais c'est lié au retard. Si la fécondité avait été très basse, pendant un court moment de 1975. L'explication
ça ouvre un deuxième débat.
Tous les démographes sont d'accord là-dessus.
En tout cas, il faut développer la natalité. Pas vraiment. Désolé, le débat est terminé. Mais en tout cas, il faut davantage d'égalité femmes-hommes pour l'encourager. Je vais reprendre un petit peu ça.
La stationnarité aussi des politiques familiales.
C'est ça.
Merci beaucoup à vous trois.
La stabilité.
Hervé Le Braz, Bettina Zourli et Yvon Seriex.
RFI.
Allez, juste après le grand journal du soir, ce sera la tranche d'information. Et puis, Afrique Soir, la première édition, Paul Lancin Spinelli, bonsoir.
Bonsoir Romain, bonsoir à tous.
On jette rapidement un petit coup d'œil à ce qui nous attend. Le Soudan, à la une, qui rompt ses relations diplomatiques avec les Émirats Arabes Unis.
Ouais, ce soir, le général Al-Bourhan, chef de l'armée soudanaise, s'est exprimé à la télévision nationale devant des infrastructures en feu à Port-Soudan, capitale provisoire attaquée pour le troisième jour consécutif par les FSR. Une agression émiratie, lance le chef des militaires soudanais, qui accuse Abu Dhabi de soutenir les paramilitaires. Et puis notre dossier du soir qui sera consacré à ce rapprochement entre les États-Unis et le Rwanda pour élaborer un accord migratoire pour trouver un débouché à sa chasse aux migrants. Donald Trump compte sur Kigali pour les accueillir sur le sol rwandais.
Eh bien merci Paul Lancin Spinelli, on vous retrouve dans 30 secondes, c'est le grand journal du soir avec Christophe Pagé. Ne bougez sur